Radio Prague, les informations.
Au Parlement européen, le président sortant Jiří Buzek rend hommage à Václav Havel. L'office vétérinaire interdit la vente de 470 000 œufs importés de Pologne et la mairie de Prague approuve le plan d'investissement pour 2012. À l'occasion de la session plénière du Parlement européen, le président sortant Jiří Buzek a rendu hommage à Václav Havel, décédé le 18 décembre 2011. Monsieur Havel, symbole de la révolution de velours et de la réunification européenne, était un intellectuel exceptionnel, un écrivain et un homme d'État courageux dont l'intervention au Parlement européen, 2 ans auparavant, avait été acclamée et rappelée monsieur Jiří Buzek. Les funérailles de Václav Havel, auxquelles il avait assisté, ont témoigné d'un respect intercontinental pour ce grand Européen, il conclut. Le président a appelé à observer 1 minute de silence pour l'homme d'État disparu. L'office de gestion vétérinaire tchèque interdit la vente en Tchéquie de 470 000 œufs importés de Pologne. Les inspecteurs de l'office ont découvert des œufs provenant des poules pondeuses élevées dans de petites cages de petites dimensions qui sont interdites dans les pays de l'UE depuis le début de cette année, selon l'attaché de presse du ministère tchèque de l'Agriculture. Il s'agirait de 3 livraisons de 2 producteurs polonais. Les œufs de ces élevages ont été découverts dans les stocks des magasins Lidl et les responsables de ces magasins doivent désormais soit renvoyer ces œufs aux producteurs polonais, soit les détruire. Les conseillers municipaux de la ville de Prague ont approuvé ce mardi le plan d'investissement pour 2012, la plus grosse partie du budget, soit 4,84 milliards de couronnes, sera injectée dans le projet du tunnel Blanka. 1 milliard de couronnes devrait permettre de relier cette nouvelle infrastructure au tunnel de Strahov. Les infrastructures de transport représenteront la moitié des dépenses de la capitale tchèque en 2012. En outre, des moyens financiers seront accordés pour l'achèvement d'un centre de natation, des travaux à l'hôpital de Bulovka et l'achèvement d'un pavillon au zoo de Prague. Ladislav Batora, personnage controversé pour ses positions extrémistes, ancien employé du ministère de l'Éducation, a reçu 250 000 couronnes d'indemnité de départ. D'après le quotidien Mlada Frontalnes, il avait dû quitter son poste de chef des ressources humaines, puis de conseiller de ministre, suite à la polémique suscitée par ses accointances avec l'extrême droite, mais aussi après avoir insulté sur Internet le ministre des Affaires étrangères. Monsieur Batora et le ministre Joseph Dobesch se sont refusés à tout commentaire, mais le porte-parole du ministère a expliqué que Monsieur Batora avait droit à des indemnités suite à la suppression de son poste. Et puis en tennis, c'est l'Open d'Australie qui a débuté lundi. La Tchèque Petra Kvitova, tête de série numéro 2, a battu la Russe Vera Dushevina 2-0 dans le prochain tour du championnat. La joueuse tchèque affrontera l'Espagnole Carla Suarez. Pour sa part, Radek Štěpánek, 31e joueur mondial, ne passe pas le premier tour. Il a été battu par le Français Nicolas Mahut en 3-7, 7-5, 7-5. 6-3. Et puis, à noter que la claveciniste tchèque Zuzana Ružičková fête son 85e anniversaire. Elle est née le 14 janvier 1927 à Plzeň. L'adolescence de celle qui est surnommée la première dame du clavecin a été difficile. Déportée successivement dans 3 camps de concentration, elle a survécu à cette épreuve, mais a commencé à douter du sens de l'existence. C'est pourtant un Allemand, Johann Sebastian Bach, qui l'a aidé à vaincre la dépression et lui a rendu le sens de la vie au cours de sa longue carrière. Elle a enregistré entre autres l'intégrale des œuvres de Bach pour clavecin. On finit par un mot de météo. Mercredi, le temps en République tchèque sera nuageux ou variable et les températures maximales se situeront entre moins 1 et 3 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information, la suite du programme présenté par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque.
Le bilan négatif des mondiaux tchèques de hockey et de ski nordique. Le cosmos privé, un nouveau documentaire de Helena Třeštíková consacré à une famille ordinaire. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission. La suite sera réservée à notre rubrique Panorama, dans le cadre de laquelle Pierre Maignan vous parlera de la privatisation par coupon, cette tentative très controversée de dénationaliser l'économie tchèque. Merci de rester avec nous et bonne écoute. La République tchèque est-elle capable d'accueillir des compétitions internationales de sport, même de moyenne envergure, sans que l'organisation de celles-ci ne se solde par un endettement monumental? Si l'on s'en tient aux 2 dernières grandes manifestations organisées dans le pays, le mondial de hockey sur glace en 2004 et les mondiaux de ski nordique à Liberec en 2009, la réponse est clairement négative. Respectivement, 8 et 3 ans plus tard, les centaines de millions de couronnes envolées continuent de hanter de nombreuses esprit, comme l'a confirmé la journée de lundi, Guillaume Narguet.
C'est d'abord la société organisatrice des championnats du monde de ski nordique en 2009 à Liberec, en Bohême du Nord, qui a été déclarée en liquidation judiciaire. La décision a été rendue par la cour municipale de Prague la semaine dernière. Selon l'administrateur judiciaire, la société doit encore près de 4,5 millions d'euros à une centaine d'entreprises et autres organisations. Le créancier le plus important est la société des transports en commun de Liberec, dont le montant de la créance s'élève à environ 785 000 euros. Autre exemple, l'université technique de la ville, qui avait mis à disposition ses chambres et restaurants universitaires durant la durée des mondiaux, réclame également un peu plus de 350 000 euros. Par ailleurs, la société organisatrice des mondiaux doit également près de 4 300 000 euros à l'État pour le non-respect de certaines règles, le remboursement des subventions en provenance des deniers publics ainsi que le règlement de l'amende qui en découle lui sont réclamés. Toujours selon l'administrateur judiciaire, les créanciers ne semblent toutefois pas prêts de recevoir l'argent qui leur est dû. En effet, la société organisatrice des mondiaux ne disposerait plus que de biens mobiliers d'une valeur d'à peine 170 000 euros et de 1500 euros sur son compte en banque. Les championnats du monde de ski nordique se sont tenus en République tchèque en février 2009. En comptant la participation de l'État, de la ville et de la région de Liberec, près de 80 millions d'euros en provenance des fonds publics ont été consacrés à l'organisation de la compétition et à la construction des installations. Malgré un budget d'environ 25 millions d'euros, les mondiaux se sont achevés avec un important déficit, un fait unique dans le monde selon le mandataire liquidateur chargé de représenter les créanciers. Mais tous ces chiffres n'en sont rien, ou presque, comparés à ceux qui circulent autour de la construction très controversée de l'O2 Arena à Prague, une salle ultra-moderne de 17 000 places spécialement construite pour l'accueil en 2004 du championnat du monde de hockey sur glace. Une salle certes élue réalisation de l'année en 2004, mais qui aura surtout coûté la somme astronomique de 335 millions d'euros au lieu de la centaine de millions initialement prévue. Le propriétaire de cette salle, qui compte parmi les plus chères jamais réalisées en Europe, est Bestport, une société anonyme chargée de la réalisation des travaux de construction et dont les fédérations sportives tchèques sont les actionnaires. Or, selon une information rapportée lundi par la télévision tchèque, dont les éléments sont basés sur un audit récemment réalisé par l'actuelle direction de Bestport, l'ancienne équipe dirigeante de la société aurait facturé ses services deux fois lors des travaux et ainsi perçu près de 12 millions d'euros supplémentaires. C'est ce qu'explique Zdeněk Ertel, membre de l'actuel comité d'administration de Bestport. On l'écoute.
Les anciens managers et certains employés de Bestport, à l'époque des travaux de construction de la salle, avaient en plus de leur contrat de travail, des contrats en tant que chef d'entreprise. L'audit a permis d'établir que certains managers ont ainsi reçu des dizaines de millions de couronnes versées sur les comptes de leurs entreprises privées. Pour un même service, ils étaient donc payés deux fois. Bien entendu, ces contrats ont été signés à l'époque par les représentants et responsables de Bestport.
Comme dans le cas de la société organisatrice des mondiaux de ski nordique à Liberec, Bestport, dont le bien le plus important est précisément l'O2 Arena, a été déclaré en faillite l'année dernière. Autant de décisions judiciaires qui font penser que la République tchèque n'est fort probablement pas prête d'organiser de nouveau une compétition sportive d'envergure internationale dans un avenir proche.
Auteur de plus de 5 ans du documentaire, Helena Trzeciakova, 62 ans, a sa spécialité, celle de suivre ses personnages durant une longue période, souvent pendant plusieurs dizaines d'années. Après avoir dépeint dans ses précédents documentaires des destins compliqués, dramatiques, voire tragiques, ceux de Marcella, une mère solitaire qui perd sa fille, de la toxicomane Katka ou d'un délinquant René, Helena Trzeciakova nous propose en ce début d'année, pour changer, un documentaire sur une famille tchèque ordinaire. Tourné sur une période de 37 ans avec des personnes qu'elle connaît intimement, Soukromý vesmír, le cosmos privé, a été, comme l'avoue la réalisatrice, le projet le plus difficile qu'elle n'a jamais réalisé. Magdalena Hrozinková vous en dit plus.
Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milý Honzo, hodně štěstí. L'histoire de ce film remonte à 1974 où Helena Třeštíková venait de terminer ses études à l'école supérieure de cinéma de Prague, la FAMU. Dans son premier court-métrage, qui avait pour thème la maternité et la manière dont la naissance d'un enfant transforme la vie d'une femme, Helena Třeštíková a filmé son amie d'enfance, Jana, une jeune sociologue pragoise. Avec sa caméra, Helena Třeštíková a suivi l'accouchement du premier enfant de Jana, instant que la réalisatrice qualifiera selon ses mots comme l'expérience cruciale de sa vie de femme et de cinéaste. C'est selon elle cette expérience-là qui lui a donné l'envie de continuer de filmer cette famille, Helena Třeštíková.
Comme la naissance de ce petit garçon Honza a motivé la poursuite du tournage, c'est donc lui qui s'est imposé comme le personnage central de ce futur film. J'avais le sentiment très fort que le film devait être sur lui, qu'on devait le voir grandir, voir s'il allait être heureux dans ce monde et ce qu'il allait faire de sa vie.
Pendant presque 40 ans, de 1974 à 2011, Helena Třeštíková a donc tourné la vie de la famille Kettner avec la participation de plusieurs chefs opérateurs et sur des formats différents. Durant des années de tournage sur d'autres films, elle s'est occupée de ses propres enfants qui, lorsqu'ils sont devenus adultes, ont également collaboré à la préparation de son dernier documentaire. En montant le film, la réalisatrice s'est appuyée sur les journaux intimes du père Petr Kettner, où celui-ci documentait tout au long de ses 40 ans avec simplicité et humour le quotidien de sa famille. Une famille unie et heureuse, opposée à l'idéologie communiste mais non persécutée, et qui traverse avec son pays tous les soubresauts de la fin du XXe siècle. Le film propose de suivre avec les Kettner les naissances successives de Honza, de ses sœurs Anna et Eva, et de les voir grandir dans une maison familiale près de Liberec où la famille emménage à la suite de son départ de Prague. Nous traversons avec les parents l'adolescence tumultueuse de leur aîné qui, après avoir abandonné ses études et expérimenté les drogues, s'installe dans le Pays Basque pour y trouver enfin sa place dans la vie. Mais ce quotidien familial, Helena Třeštíková le replace dans le contexte historique. Elle l'illustre abondamment d'images de la télévision d'avant et d'après la chute du communisme, images consacrées notamment à deux sujets fétiches des médias, à savoir la carrière du chanteur populaire Karel Gott et la conquête spatiale, Helena Třeštíková.
Pour moi, le thème principal de ce film, c'est comment remplir sa vie. Cela concerne tout le monde, les parents, Honza, ses sœurs, mais aussi Karel Gott et ceux qui envoient les fusées dans l'espace. Nous sommes ici pour une courte période seulement. Alors, que faire de ce temps qui nous est réservé?
Le documentaire de Helena Třeštíková, Le Cosmos Privé, sort en salle en République tchèque le 26 janvier prochain. Il sera également présenté au prochain Festival international du film de Karlovy Vary.
Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. La chute du régime communiste en Tchécoslovaquie ne s'accompagne pas uniquement de profonds bouleversements politiques. Elle marque aussi le début d'une ère de transformation économique radicale sous l'impulsion des libéraux désormais au pouvoir. Ceux-ci veulent privatiser le plus rapidement possible les entreprises publiques. Sous l'impulsion du très néolibéral Václav Klaus, ministre des Finances de 1989 à 1993, puis premier président du gouvernement de République tchèque suite à la scission avec la Slovaquie, se met en place un programme de privatisation massive. L'une des méthodes employées fête ses 20 ans et sans équivalent dans l'histoire. Il s'agit de la privatisation par coupon, Kuponova privatisation en tchèque, qui vise à faire de la société tchèque une société de petits actionnaires. Pierre Maignan.
Panorama.
Pa-no-ra-ma.
En 1989, la révolution de velours met un terme au pouvoir communiste en Tchécoslovaquie. Les nouvelles forces politiques importantes du pays, notamment le Forum civique puis le Parti civique démocrate, ODS, portent un projet d'inspiration libérale dans lequel l'État doit jouer un rôle minimal, notamment vis-à-vis du marché. Il y a une volonté très forte de tourner la page de l'économie collectiviste. De nombreuses mesures sont donc prises. Les taux de change et 95% des prix sont libérés. C'est la thérapie de choc. La couronne est plusieurs fois dévaluée. Surtout, à la fin des années 1980, 97% des entreprises sont contrôlées par l'État. Et le libéralisme, alors triomphant, s'accorde mal avec le dirigisme étatique. Plusieurs plans de privatisation de grande envergure sont mis en place. Le premier, connu sous le nom de petite privatisation, Mala privatizace en tchèque, débute à la fin de l'année 1990 et vise à vendre aux enchères les petites entreprises des secteurs des commerces et des services. Les employés sont ainsi encouragés à acheter une part de leurs entreprises. Pendant 3 ans, ce sont environ 23 000 firmes qui passent du secteur public à celui du privé. Ces opérations permettent à l'État tchécoslovaque de faire entrer près de 32 milliards de couronnes dans ses caisses. Sous l'égide du ministère des Finances d'alors et de son ministre Václav Klaus, du ministre aux privatisations Tomáš Ježek et de l'économiste Dušan Tříška, est lancé un second plan de privatisation dont l'objectif est de vendre au peuple tchèque la plupart de leurs grandes entreprises. C'est la fameuse privatisation par coupon. Tomáš Ježek explique s'être inspiré des bons de rationnement qu'il avait connus dans sa jeunesse. Anne-Françoise Blüher est analyste économiste pour une grande banque de République tchèque. Arrivée dans le pays dans les années 1990, elle en connaît très bien les mutations économiques et nous explique le fonctionnement de ses carnets de coupons.
Alors, chaque tchèque qui avait plus de 18 ans, il a reçu il pouvait acheter un cahier avec des coupons. Pour à ce temps-là, c'était peut-être 1000 couronnes. Et ces coupons représentaient une sorte de monnaie pour acheter des actions des entreprises qui doivent être privatisées. Alors chacun qui avait un cahier de coupons, il pouvait dire qu'avec ces coupons, il voudrait acheter des actions d'une ou de l'autre entreprise. Et après, tant que la demande n'était pas plus grande que les actions disponibles, cette personne a reçu des actions de chaque entreprise qu'il voulait.
Deux vagues de privatisation par coupon vont être organisées. La première débute en décembre 1990. Tout d'abord méfiant à l'égard de ce système, les Tchèques vont finalement largement jouer le jeu, peut-être à cause des campagnes de publicité massives qui vantent les mérites de ces carnets de coupons, censés faire de tout à chacun un petit actionnaire. L'un de ces spots télévisés met en scène le célèbre acteur Jaromír Hanzlík.
Zisky z českých a moravských podniků nezmizí v cizině, zůstanou doma.
En un mot, les bénéfices des sociétés tchèques et moraves ne s'enfuient pas à l'étranger, ils restent à la maison. En effet, ces privatisations par coupons permettent de préserver les intérêts nationaux en laissant les entreprises tchèques dans les mains de Tchèques. Cela ne se passe pas partout de la même façon dans l'ancien bloc de l'Est. Ainsi, les Hongrois, par exemple, vendent toutes leurs entreprises, même celles considérées comme stratégiques, telles que le secteur du gaz ou celui de l'électricité, à des investisseurs étrangers. On considère ces derniers comme plus à même de pouvoir apporter de nouveaux capitaux et ainsi de développer ces firmes. En République tchèque, on espère que cette privatisation par coupon va conduire à une adhésion des citoyens au système capitaliste, dans le cadre d'une société de petits porteurs. Pour Anne-Françoise Blüher, il s'agit avant tout d'une question pragmatique.
L'idée, c'était plutôt de privatiser le plus vite possible les entreprises de la République tchèque qui étaient en main publique. Ils n'ont pas privatisé toutes les entreprises. Ils ont gardé surtout les banques et puis aussi d'autres entreprises qui étaient importantes du point de vue de la République entière. Par exemple, énergie. Puis aussi à d'autres entreprises comme la Škoda qu'ils ont pas privatisé avec des coupons, mais ils ont vendu à un investisseur direct.
Effectivement, les entreprises stratégiques ou en situation de monopole restent aux mains de l'État en attendant de nouvelles mesures de privatisation. Cependant, la privatisation par coupon semble être un succès, au moins populaire, puisque ce sont entre 6 et 8,5 millions de Tchèques qui se portent acquéreurs de carnets de bons, mis en vente pour exactement 1035 couronnes, soit à peu près le tiers du salaire moyen au début des années 1990. Lors des deux vagues de privatisation, c'est un patrimoine de 1172 sociétés pour un montant de 367 milliards de couronnes qui est mis en vente. Le 31 décembre 1996, Václav Klaus annonce la fin de ce processus de privatisation et environ 80% des entreprises tchèques appartiennent désormais au secteur privé. La transition économique semble s'être opérée de façon moins difficile que dans les pays voisins. C'est ce que nous explique Anne-Françoise Blüher.
À ce temps-là, on parlait du miracle tchèque parce que la transformation de l'économie tchèque, elle n'a pas amené une, surtout sur le marché de travail, il n'y avait pas une augmentation du chômage autant que dans les autres pays dans la région. Je pense que la transformation de l'économie, c'est assez compliqué parce que vous avez une structure économique avec des entreprises qui produisent des produits et tout à coup, avec la révolution et le changement de régime, et ils se sont retrouvés sans leur marché qu'ils avaient avant. Alors toute la production qu'ils produisaient était pour rien. Alors, et en plus, il y avait la concurrence de l'extérieur qui augmentait. Et ils n'avaient pas la technologie, ils n'avaient pas le know-how, ils n'avaient pas les produits qui pourraient être compétitifs dans ce nouvel environnement. Alors, les entreprises étaient obligées de se transformer vite, très vite. Et c'est difficile à ce moment-là si vous n'êtes pas capable de gagner du capital, des technologies, le know-how. Alors souvent les entreprises, ils ont fait faillite et ils ont licencié les gens, ce qui a augmenté le chômage. Mais ici en République tchèque, peut-être la transformation a été moins pénible pour les gens parce que le secteur bancaire, il était toujours en main publique et le secteur bancaire, il a aidé à financer la transformation des entreprises.
Pour autant, cette privatisation par coupon va être fortement critiquée et devenir relativement impopulaire. Ainsi, en 1999, à l'occasion d'un sondage, les trois quarts des Tchèques sondés jugent négativement cette expérience. Il faut dire que beaucoup d'entre eux ont perdu de l'argent avec ces bons, alors qu'ils croyaient pouvoir en gagner. En effet, de nombreuses affaires d'escroquerie liées à ces privatisations en illustrent le caractère parfois douteux. Victor Kojeni en est l'exemple le plus célèbre. Anne-Françoise Blüher revient sur son cas.
Si je me souviens bien, il a pris avantage de ses coupons. Il a fait une offre aux gens. Je vous achète ces coupons, je vous donne de l'argent. Et après, il a acheté avec les coupons des entreprises dans un fonds. Et il a retiré le capital du fonds d'une façon, je dirais, illégale. Et les gens, ils n'ont pas reçu leur argent. C'est un cas qui a toujours pas été vraiment résolu.
Voici ce que proposait le fonds d'investissement de Victor Kojeni dans l'un des très nombreux messages publicitaires des fonds d'investissement à cette époque.
Vložte 1000 investičních bodů do kteréhokoliv z harvardských podílových fondů.
Venez déposer vos 1000 points et retirez dès à présent 3000 couronnes en espèces. Cette offre est valable jusqu'à révocation. Prenez votre décision maintenant. Les réformes économiques, ça fonctionne. Le fonds d'investissement Harvard, l'assurance de faire de bons investissements.
Ekonomická reforma funguje. Harvardské investiční fondy, jistota správné investice.
Cette offre alléchante d'un fonds d'investissement dont le nom a consonance anglo-saxonne pouvait à l'époque sembler rassurant, rencontre un succès important. Les bons permettent à Victor Cogeni d'acquérir de nombreuses entreprises à un prix dérisoire. Il en retire toutes les liquidités et les met à l'abri dans des paradis fiscaux. Mais ce n'est pas le seul exemple d'escroquerie et nombreux sont ceux qui ont tenté de tirer avantage de ces privatisations, comme nous le rappelle Anne-Françoise Blüher.
Il y avait sûrement des possibilités de profiter parce qu'il y avait aussi d'autres fonds qui ont fait un... Ils ont aussi proposé aux gens, je vous achète ce cahier de coupons. Comme je l'avais dit, ça coûtait à peu près 1000 couronnes et peut-être ils ont promis de payer 10 000 couronnes. Alors les gens ont pensé, ben, c'est une bonne affaire, je vais acheter les coupons et puis je les vends au fonds. Et le fonds, il me donne 10 000 couronnes. J'ai gagné beaucoup d'argent. Mais les gens qui faisaient ces fonds, ils étaient un peu plus doués. Ils savaient bien qu'avec ces coupons, ils seraient capables d'acheter des entreprises qui ont beaucoup plus de valeur que ce qu'ils ont payé pour ce cahier de coupons. Alors, ils ont pu... parce qu'ils avaient plus d'informations, ils savaient mieux la valeur des entreprises que le public, peut-être. Ils ont pu faire beaucoup de profits dans cette privatisation avec les coupons.
Aussi, 70% des détenteurs de ces carnets de coupons estiment ne pas avoir une connaissance suffisante du marché et de ces entreprises et décident donc de remettre leurs bons à des fonds d'investissement. Le manque d'informations financières, l'absence de règles sur les marchés financiers participent à la mise en place d'un système assez opaque. Les comptes de ces fonds d'investissement ne sont par exemple pas contrôlés. Les critiques sont nombreuses. Miloš Zeman, premier ministre social-démocrate entre 1998 et 2002, parle d'escroquerie du siècle.
Ano, vypadalo to jako československá originální metoda.
Oui, cela ressemblait à une méthode de privatisation tchécoslovaque originale, mais aucun autre pays qui songeait à réaliser une opération similaire n'a finalement franchi le pas. Le pire dans tout cela, c'est qu'à la fin des années 1990, le ministère de l'Industrie et du Commerce a réalisé une analyse sur les privatisations dès la décennie écoulée qui a révélé que les plus grands bénéficiaires étaient les entreprises disposant de capitaux à l'étranger. En deuxième position, ce sont paradoxalement les entreprises restées sous la coupe de l'État, qui avait le plus profité du système. Enfin, les firmes vendues sous le régime des carnets de coupons étaient dans la pire des situations.
La privatisation par coupon affiche donc un bilan relativement mitigé. Outre la question de l'opportunité de ces privatisations, elle a surtout permis à certains acteurs de s'enrichir rapidement, tandis que beaucoup des acquéreurs de ces bons ne disposaient ni des savoirs, ni de l'information nécessaire pour les utiliser à bon escient.
C'était donc la rubrique Panorama et Pierre Maignan qui nous a parlé de la privatisation par coupon. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. N'oubliez pas que vous pouvez trouver et retrouver tous nos programmes en audio et en texte sur www.radio.cz/fr.